J'ai eu ce sentiment d'attachement quand même qui était présent. Il était palpable quand même, malgré tout. Mais par contre, il y avait un sentiment de danger face à elle. Elle me mettait en danger.
Je m'appelle Cécile Coumeau et je vous propose de pousser la porte de la maison d'Élise dans la banlieue de Lyon. Nous nous sommes rencontrés un matin, à l'heure où les enfants étaient à l'école. Dans cette ambiance calme et sereine, Élise s'est confiée, elle a raconté ce qu'elle a vécu et que la société refuse de voir en face. Devenir mère peut être une souffrance. Il y a 10 ans, à la naissance de sa fille, la jeune maman a vrillé, comme elle dit. Élise a souffert d'une grave dépression alors que rien ne l'a prédisposée à ce trouble. Pour elle, la grossesse, la maternité, tout devait couler de source.
Leurs mots à elles. Le podcast de Ça m'intéresse qui fait entendre la voix des femmes sur leur corps et leur santé.
J'ai eu un arrêt de travail du fait d'un décollement placentaire. Pour être sûre que le bébé tienne, il a fallu donc environ 2-3 semaines d'allaitement. Et ça, je l'ai très mal vécu en fait. Je suis quelqu'un d'assez hyperactif. Et pour le coup, j'ai commencé à être enfermée dans mon corps. J'ai perdu le contrôle de ce corps. Et c'est ce qui a ensuite fait que j'ai perdu le contrôle de l'esprit. C'était déjà difficile pour moi d'appréhender le fait que j'étais enceinte, que j'allais avoir un bébé. Et quand on m'a dit qu'il y avait un décollement placentaire, il y a déjà eu quelque chose qui a plané au-dessus. Je voulais pas la perdre, et en même temps, qu'est-ce que ça aurait fait si je l'avais perdue ? Là, on était déjà entre la naissance et la mort. Enfin, il y avait déjà quelque chose pour moi de cet ordre-là. J'ai été arrêtée jusqu'à la fin de ma grossesse. Je n'ai jamais repris le travail. Très vite, je me suis isolée et j'ai été isolée. Parce qu'en plus, pendant cette grossesse, j'ai développé une hypochondrie, donc tout était source de stress au niveau maladie. J'ai souffert d'un diabète gestationnel, j'étais pas immunisée contre la toxoplasmose, ce qui fait que ça a engendré autour de la nourriture quelque chose de complexe. J'ai pris que 4 kilos. À aucun moment je me suis dit, il y a quelque chose qui est en train de dérailler. J'avais la sensation que c'était normal, puisque on m'avait jamais dit vraiment ce qu'était une grossesse. Pour moi, c'était quelque chose qui était censé être naturel, donc dans les faits, je devais me sentir bien pendant cette grossesse. Et vraiment, j'ai raccroché le physique au psychique sans m'interroger sur ce que j'étais en train de vivre réellement à l'intérieur. Mais sur le coup, je le vivais, c'était vraiment de l'ordre du ressenti physique et puis une sensation d'angoisse qui m'a prise et une sensation d'urgence. J'étais déjà dans un mode survie. J'étais plus dans la vie, j'étais à côté, puisque déjà j'étais plus dans le travail. J'étais dans une bulle que j'avais formée. Et en plus, le corps médical m'intimait de continuer dans cette bulle. Donc tout ça a vraiment signifié l'arrêt du contact humain avec l'autre. Enfin voilà, je me suis complètement renfermée dans ça. Je suis restée alitée presque tout le temps. J'avais 20 à 30 contractions par jour dès le 3e mois de grossesse. Ma fille était déjà la tête en bas. Enfin, tout était déjà prêt. Comme si elle aussi sentait quelque chose d'urgent, de l'urgence de sortir de mon ventre pour que, voilà, elle n'ait pas à subir ce que moi-même je subissais. Je pensais qu'en accouchant, ce serait la libération. Que tout ce que je ressentais depuis des mois, ça allait sortir de moi, et comme ma fille. Et voilà. En fait, ça n'a pas du tout été comme ça. L'accouchement s'est plutôt bien passé. Enfin, j'ai eu une péridurale surdosée, donc c'est le gynécologue qui m'a accouchée, hein, puisque je ne ressentais plus rien. Donc je ne l'ai pas fait mienne en donnant naissance à ma fille. On m'a accouchée. Et donc elle est restée un petit moment en couveuse. Donc déjà, aussi de ce côté-là, je n'ai pas pu la prendre. Je me souviens juste qu'elle soit partie et qu'il m'a dit... Ah, elle a du coffre, votre fille, on l'entend bien. Il y avait des bébés qui pleuraient, alors je l'ai... Ah, moi, je n'ai pas du tout reconnu ma fille. Donc ça a été extrêmement douloureux pour moi de me rendre compte qu'en fait, j'étais incapable de savoir laquelle était la mienne. Quand ils sont revenus, elle était dans la couveuse. J'étais, à ce moment-là, fière d'avoir mis au monde ma fille. L'émotion de bien-être est repartie pour laisser la place vraiment à beaucoup d'angoisse. Et en me disant, ça y est, elle est là.
et c'est une inconnue. Donc le papa est resté avec moi l'après-midi, et au moment de partir, là pour le coup, c'est là où le stress est revenu. On était en novembre, la nuit tombe vite. La nuit, c'est vraiment une période d'angoisse extrêmement forte. Tout ressurgit, on reste avec soi, avec tout ce qui peut cogiter dans la tête, toutes les pensées intrusives qui peuvent arriver. Et donc, j'avais décidé de l'allaiter. Comme pour le reste, je ne m'étais pas trop documentée. Il me semblait que c'était quelque chose de naturel. Donc, je n'avais pas du tout anticipé le fait que ça pourrait être douloureux quand je l'ai mis au sein. De suite, j'ai eu des crevasses. Et puis, j'ai surtout eu beaucoup de conseils différents. C'était quand vous l'allaitez, c'est juste un sein, une fois, ensuite la prochaine, c'est l'autre sein. Non, il faut faire 5 minutes, 5 minutes. Non, il faut faire tant en tant. Et en fait, dans tout ça, je me suis perdue. J'ai eu des bouts de sein dès le départ, comme quoi j'avais pas la poitrine adaptée pour ma fille. Donc ça aussi, on n'arrivait pas à se rendre compte déjà d'un point de vue physique. Toutes ces petites choses, le fait que l'allaitement était compliqué, que le bain, j'avais du mal, ça participait au fait de me dire, j'ai pas les capacités en fait. J'ai pas les capacités pour être mère. Je vais pas savoir m'en occuper. Donc qu'est-ce qui restait en fait pour qu'on se rencontre? C'est là où je me disais, qu'est-ce qui va faire sens en fait pour nous deux? Et puis cette question du sommeil, j'avais imaginé qu'un bébé dormirait tout le temps. Donc ça a été de me dire, va falloir que je tienne le choc alors que je sors de 2 mois d'insomnie et je vais jamais tenir. Ça va pas être possible. Et donc la dernière nuit, j'ai appelé mon ex-mari au moins 10 à 15 fois. Et je lui ai laissé des messages complètement alarmistes. Que je tiendrais pas, qu'il fallait que je reste là, qu'il me garde longtemps. Quand il est arrivé, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas à la tête. On est sortis vers 11h. Et donc je me suis retrouvée dans cet appartement que je connaissais encore assez peu. Et là l'esprit a vraiment déraillé complètement. Elle s'est mise à pleurer et je lui ai dit, j'y arriverai pas à l'allaiter, je sais pas si elle a faim, j'y arriverai pas. J'ai senti que tout lâchait, qu'il fallait vite faire quelque chose. J'allais mourir en fait, c'était vraiment ça qui se jouait là. J'allais mourir de trop souffrir. Il y avait plus que moi qui était en train de m'éparpiller de partout, qui était en train de tout lâcher. Et que si je continuais comme ça, sur cette lancée, si je restais à la maison, je tiendrais pas en fait. Donc il n'y avait pas de pensée morbide, hein. J'en ai jamais eu. J'ai eu des pensées de me dire je veux m'endormir et plus jamais me réveiller, mais pas dans l'idée de mourir, dans l'idée de je veux que cette souffrance cesse et donc je veux dormir. Il y avait de la peur face à elle, mais j'ai senti de l'amour. C'était pas ça le problème en fait. J'ai eu ce sentiment d'attachement quand même qui était présent. Il était palpable quand même, malgré tout. Mais par contre, il y avait un sentiment de danger face à elle. Elle me mettait en danger. Et donc, ce jour-là, j'ai su que je ne serais pas capable, à ce moment-là, de m'en occuper. Là, mon ex-mari a appelé sa maman et elle lui a dit « Tu appelles le 15 ». Il a eu le médecin régulateur. Il lui a dit qu'il fallait m'emmener aux urgences psychiatriques rapidement. Alors, je me dis « Ça y est ». Ce que je ressens, ce danger, cette urgence, il y a quelqu'un qui va le palper. C'était un soulagement aussi de savoir que... En fait, moi, ce que je voulais aussi, c'est que d'être éloignée d'elle. Et donc, on a pris le chemin avec ma fille. J'avais envie d'appeler ma maman pour lui expliquer la situation. Et en fait, j'arrivais pas à le faire. C'était dire tout haut que j'étais pas en capacité d'être mère. Ça, c'était une forme de culpabilité énorme. On est arrivé aux urgences psychiatriques du Vinatier. Et on a attendu. Ils nous ont mis à l'écart parce qu'on avait un bébé de 5 jours et que c'était bien aussi de pouvoir être à l'écart. Mon compagnon est reparti avec ma fille pour la déposer et pour revenir. Je me suis retrouvée avec des gens comme moi, en fait. Le fait que ma fille n'était plus présente, c'était déjà beaucoup plus détendu pour moi. Alors, j'ai eu peur qu'ils ne reviennent pas, quand même. J'avais vraiment peur de rester folle à vie, quoi. Les personnes qui m'ont reçue m'ont dit « On préfère ne pas vous garder ici ce soir, parce que c'est extrêmement anxiogène. » Ils commençaient à y avoir des cris. Ils me disent « C'est pas votre place. » Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez rentrer quelque part, mais pas chez vous, pas en présence de votre fille. Et puis, nous, on va trouver une solution. Et puis, quand elle a levé son dossier, j'ai vu des cases et puis j'ai vu marqué « trouble névrotique ». Elle m'a dit que je faisais une dépression du postpartum. Hein, elle a posé le diagnostic. Mais de voir « trouble névrotique », ça a été extrêmement violent. Je me suis dit « ça y est, c'est vraiment la barrière. J'ai passé cette barrière-là. » Et je suis allée dormir chez mes parents, en fait.
Et donc, l'infirmier aux urgences psychiatriques m'avait donné un cachet, un anxiolytique. Donc, j'ai pris le cachet et j'ai dormi. Ce jour-là, on est retourné avec mon ex-mari aux urgences psy. En attendant, on était un peu en avance, on est allé manger au McDo. C'était complètement irréel. Je voyais le monde tourner autour de moi. Et moi, j'étais complètement ralentie. C'était extrêmement impressionnant de voir tous ces gens continuer leur vie, alors que la mienne était complètement en train de se déliter. Il y avait des jeunes gens complètement insouciants de ce moment-là. Et moi, je me suis rendu compte voilà, qu'il fallait que j'aie de l'aide vraiment pour pouvoir remonter et pouvoir re-rentrer dans ce monde-là, où j'étais déjà isolée depuis un moment, puisque avec cette grossesse, j'avais été isolée. Ma fille, pour le coup, c'est complètement secondaire. C'est moi qui compte, là. Il me propose une hospitalisation en clinique psychiatrique. Il m'explique donc que je vais y être hospitalisée seule. Donc on va à la maison, je récupère des affaires et on repart. Pendant les 15 premiers jours, je vais être séparée de ma fille complètement, vu qu'il semble que ce soit quand même la source de mes angoisses. Les 15 premiers jours en hôpital psychiatrique, c'est les 15 premiers jours où ils mettent en place le traitement. Il n'y a pas de soins qui est proposé à ce moment-là. La psychiatre passe tous les jours me voir. Voilà, ça se passe comme ça. Et donc ensuite, mon ex-mari repart et j'intègre une chambre double avec une personne âgée qui est atteinte d'un cancer et qui est dépressif suite à la maladie. Voilà la routine de l'hospitalisation qui se met en place. Lever à 7h, 7h30, prise des cachets dans le couloir, le petit chariot qui est mis au milieu, on va déjeuner. Et puis je dors. Je dors quand même beaucoup. L'angoisse est moins forte. Par contre, c'est la question du temps qui va vraiment me prendre la tête. Combien de temps ça va durer? Est-ce que je vais être folle toute ma vie? Sur cette période-là, je crois pas que je m'inquiète pour Ambeline parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui s'occupe d'elle et il n'y a pas de culpabilité à ce moment-là, dans ces 15 premiers jours-là. C'est après, quand elle commence à venir, quand elle partait, je pleurais beaucoup, là pour le coup de culpabilité, en me disant « putain, je suis incapable de m'occuper d'elle ». Et en même temps, je suis contente qu'elle soit pas là. Il y avait beaucoup de dualité entre le fait que j'étais accrochée à elle, mais que je pouvais toujours pas, quoi. C'était trop dur pour moi d'être trop longtemps en sa présence. Donc j'ai donné des biberons, je l'ai changé, enfin voilà. J'ai quand même recommencé des gestes de mère que j'avais plus. Il y a eu donc la psychiatre que j'ai vue tous les matins, la mise en place d'un psychologue, et puis des ateliers d'art-thérapie. On faisait ce qu'on voulait, de la peinture, de la craie, fusain, enfin, ils proposaient tout. Du papier, pas du papier, enfin voilà. Ce qui nous venait. Et donc, moi, sur ce soin-là, j'ai décidé de toucher du doigt réellement ce qui m'amenait ici. Et donc, j'ai fait un dessin représentant comment je percevais la maternité. Noir, beaucoup de noir. Du noir avec un sein sur un côté. Avec un petit ange. C'est étonnant parce que cet ange, c'est à la fois la vie, mais pour moi, ça représente beaucoup la mort. C'était entre deux. Et puis, des choses qui nous reliaient. En fait, j'avais utilisé nos deux prénoms que j'avais mis dans des petites formes. Mais j'avais mis les lettres et elles s'entrecoupaient, mais elles étaient pas vraiment, elles avaient du mal à se rencontrer. Et puis, j'avais mis des petites phrases autour de ce que je ressentais. Voilà. Donc, ce dessin-là, ça a permis vraiment de sortir des choses. Le non-verbal a permis beaucoup plus de choses que le verbal. La psychiatre m'a proposé un soin pour Ambeline. Et on y allait 3 fois par semaine. On avait eu 2 mois de séparation. Et pour eux, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose pour Ambeline à mettre en place. Parce que nécessairement, elle allait souffrir de ce qui s'était passé. In utero et en postpartum. Donc c'était inconcevable de me laisser repartir comme ça avec une enfant qui n'avait pas été prise en charge. Et qui, ça se trouve, allait très mal. Ambeline, quand on a commencé le soin, c'était de la question du nourrissage, les biberons, qui étaient compliqués, où elle s'endormait, où elle était absente. Et puis, c'était les troubles du sommeil. C'est une enfant qui ne dormait pas la journée, elle dormait 45 minutes par jour. Pour un bébé de quelques semaines, c'est juste pas normal, ça peut être dit pathologique. Et puis, c'est un bébé qui a eu beaucoup d'eczéma. Donc, le but, c'était d'avoir sur place une équipe pluridisciplinaire, il y avait une psychomotricienne, il y avait la pédopsychiatre, il y avait des infirmières pues, il y avait des bains le matin, il y avait des soins de psychomotricité, il pouvait y avoir des temps de chansons pour les enfants. le but de la structure, c'était de m'apporter un maillage, de m'entourer dans la rencontre à cet enfant. Et voilà. Le sentiment de tissage, vraiment, il s'est fait sur la fin de soins. Et surtout au retour à domicile où je me suis dit, là, ça y est, c'est le grand bain, tu vas t'en occuper et t'en es capable. Et puis le premier sourire. Le soir, on s'occupait d'elle parce qu'elle a quand même eu de l'eczéma pendant un bon moment. Et donc je la crémais. Ce moment-là, j'étais assise sur le canapé avec elle, dans les bras face à moi. Et donc là, il y a eu un sourire. Et là, moi aussi, j'ai souri. Ce qui n'était peut-être pas arrivé depuis très longtemps aussi. Et ça a été un moment extrêmement intense parce que pour le coup, je me suis dit, c'est bon, ça y est. On n'est pas sortis d'affaires, mais au moins, il y a des choses qui se jouent entre nous. On se rencontre. Ça y est, on peut partir sur notre histoire. J'ai commencé à reprendre contact avec le monde réel, avec l'extérieur. Quand le soin d'Ombeline s'est mis en place et que j'étais encore hospitalisée, j'étais obligée de prendre le taxi-ambulance. Et comme des fois, elle était en retard, j'étais obligée de prendre les transports en commun. Et là, c'était une fierté d'être en capacité de prendre le bus. Là, je me disais, et en fait, j'ai des capacités. Je les sais, ces capacités, elles sont bien présentes. C'est juste que j'ai eu l'impression de les perdre et qu'il faut que je les fasse refonctionner. Et puis alors, à la reprise du travail, la veille, le soir dans mon lit, j'ai repris les visages des gens et je me suis obligée à me rappeler des prénoms. Ça m'a obligée à refaire fonctionner mon cerveau. Et puis j'ai une collègue en particulier qui m'a un peu boostée et qui m'a dit « Élie, je te confie ça, tatac. » En fait, elle n'a pas cherché à me dire « Tu vas pas bien, je te laisse tranquille. » Non, reprendre un rythme, me réancrer dans le temps, dans le présent, ça m'a aidée. Je pense que les choses sont rentrées dans l'ordre vers les 1 an d'Ombeline. Mais parce qu'elle marchait, parce qu'elle commençait à parler, enfin, toute la question de l'autonomie. Donc c'est, je pense vraiment à ce moment-là où j'étais libre. Et où, jusqu'à présent, il n'était pas pensable de faire un deuxième. Il a commencé à être évoqué un deuxième enfant. Cette seconde grossesse, je ne l'ai pas vécue du tout de la même façon. L'échographiste que j'ai vu m'a dit « je ne pense pas qu'il tiendra ». Et je lui ai dit « c'est un bébé surprise, donc on verra ». J'ai divorcé entre-temps, parce que ma difficulté maternelle, enfin, cette dépression, elle a changé toutes mes priorités, et elle m'a fait voir ce que je voulais, ce que je ne voulais plus. Elle m'a fait entrevoir aussi que mon couple n'allait pas bien du tout depuis longtemps, ce qu'on se cachait peut-être à tous les deux. Voilà. Et donc, il y a eu ce décollement placentaire, allaitement strict, 1 mois, rebelote, que j'ai très bien vécu. J'ai souffert d'un diabète gestationnel, je n'étais pas immunisée contre la toxoplasmose, enfin, la même, similaire, sauf que j'ai pu retravailler un petit peu quand même au milieu, j'ai pu montrer mon gros ventre à la face du monde. Cette grossesse, elle était présente pour tous, elle était là, on la voyait, alors que pour Ombeline, personne ne l'a vue. Et puis c'est un garçon. Donc dans mon histoire de famille, ça changeait toute la donne. Il ne se jouait pas du tout la même chose. Ce serait un autre, vraiment. Parce que je pense pour ma fille, en y réfléchissant, je pense qu'il y avait quand même ce sentiment d'unité, d'un seul. Et pour mon second, j'ai fait totalement différemment. Vu que la première grossesse avait été hyper médicalisée, je voulais pas de ça. Il était hors de question que je revive un truc où j'étais, si on peut dire, sous la coupe du gynéco. Et où, j'ai de suite dit aussi que je n'allaiterais pas cet enfant. Et puis, j'avais décidé d'accoucher sans péridurale. Enfin, j'avais fait des choses... J'avais mis plein de choses différentes en place et je l'ai vécu très bien. J'étais épanouie. Enfin, tout s'est très bien passé pour cette grossesse. Son arrivée n'a pas du tout été vécue de la même façon. Le côté animal, que j'avais pas du tout eu pour ma fille, a vraiment été présent. Mon fils, j'aurais pu le manger. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est quelque chose qui était, vraiment animal. Alors que pour Ombeline, cette sensation-là, je ne l'ai jamais eue. Et même aujourd'hui encore, c'est quelque chose que je n'ai pas. Même si j'adore lui faire des câlins, il y a beaucoup plus d'intellectualisation de son côté. J'ai auto-publié un livre pour pas perdre cette mémoire qui me semble essentielle pour elle. Et donc on en a parlé en ses mots à elle, de façon à ce qu'elle comprenne que les choses n'avaient pas été naturelles, mais que ça s'était fait et que ça présageait rien de... C'est nos relations d'aujourd'hui. C'est ma fille, c'est je crois que c'est mes deux enfants, mais plus encore Ombeline, c'est vraiment ce qui m'a fait naître à moi, autant en tant que mère, mais qu'en tant que femme. Quand elle a eu environ 1 an et demi, J'ai eu besoin de savoir si j'étais un cas unique. Et donc j'ai tapé dépression du postpartum sur Google et je suis arrivée sur le site de Maman Blues. Et là, j'ai... Je pensais être la seule et pas du tout. Donc j'ai commencé à participer au forum. Puis à ce moment-là, la créatrice du relais lyonnais m'a envoyé un message privé en me disant que si j'avais envie de m'investir, voilà, c'était faisable. Donc j'ai commencé comme modératrice sur le forum. Et puis je me suis investie par la même occasion dans le relais. C'est des temps d'échange en fait, tous les mois qui sont proposés aux femmes qui sont en souffrance. Cet investissement, il a un côté aussi très thérapeutique. Enfin, voilà. J'ai compris en partie ce qu'on avait vécu. Il y a plusieurs choses qu'on jouait. Je pense qu'il y a la lignée de femmes. Quand je pars que de ma grand-mère du côté de maternelle, mon grand-père est décédé très tôt. Elle a élevé seule ses 5 enfants avec une poigne de fer. Le côté affectif assez peu présent. Ma mère, comme ma grand-mère, c'est des femmes de poigne. Et quand j'ai été mère, je pense que tout ça, ça a remonté. Et puis il y avait aussi la question de l'image que j'avais de ma mère. Je pense que je la voyais comme une mère parfaite. Pour moi, c'était quelqu'un qui avait réussi sur tous les plans. Donc pourquoi moi, sa fille, j'étais pas en capacité de réussir? Et puis je pense que la pression sociétale, même si ça n'a pas été dit, pour moi, c'était le premier enfant. Je travaillais, j'étais censée assurer de toute façon. Et ça m'a aussi sauté au visage, quoi. Quand j'ai repris à 100%. Ambuline était encore hospitalisée. Un mois ou deux après, je me suis dit, mais Elise, arrête tes conneries, quoi. Tu peux pas faire du temps plein avec un gamin comme ça, c'est pas possible. Et c'est là que je me suis autorisée à prendre un 80%. Et puis il y a aussi ce que j'ai découvert un peu plus tard. Ma grand-mère paternelle a fait une dépression du postpartum pour son 3e enfant. Et donc je me suis dit, voilà, il y a aussi une cause de ce côté-là aussi, très certainement. Et puis une dernière cause que j'ai pu pointer, c'est le fait que j'ai été longtemps une femme enfant, enfin très adolescente pendant longtemps. Longtemps, j'ai été en jean basket, enfin, je prenais pas soin de moi. Donc quand Tomboli est arrivé, c'est aussi cette conscience du statut de femme que j'avais pas jusqu'alors. J'ai dû intérioriser que je n'étais plus la fille d'eux déjà, mais que j'étais voilà une femme et que j'étais la mère d'une autre enfant. Et qu'il fallait que j'arrive à quitter cet habit-là. Et puis quand j'ai sombré, j'ai vraiment ressombré en état de petite fille. J'avais besoin d'être protégée, qu'on me materne. Ce que je dirais aux femmes qui peuvent sentir voilà, que quelque chose est dit anormal, j'aime pas cette question de normal ou anormal, mais c'est dans ces termes que ça s'inscrit, quand elles sentent pendant leur grossesse qu'elles ont du mal à l'investir, quand elles ont du mal à lui parler à cet enfant, quand ça vient aussi jouer de leur histoire, quand il y a une réminiscence de leurs histoires familiales, de vraiment pas hésiter à se confier. Alors, quand je dis se confier, c'est se confier à une personne de confiance, quelqu'un qui puisse entendre ce qu'elles ont à dire, quelqu'un qui va pas minimiser, quelqu'un qui va pas dire « mais t'inquiète pas, ça va passer, tu verras quand il sera là, tu penseras plus, puis... » T'as un enfant en bonne santé, il n'y a pas de raison que... Enfin voilà, des présupposés qui font que ça ferme la porte. Ça peut être quelqu'un de leur entourage, ça peut être aussi un soignant avec qui elles sont très proches. Enfin vraiment, il faut qu'elles puissent arriver à trouver une personne à l'écoute. Alors parfois, effectivement, ça peut être via le net et trouver une association comme Maman Blues où elles puissent, sur le forum, dire ce qu'elles ressentent. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que ça reste très tabou d'exprimer le fait que devenir mère, c'est de la souffrance. Quand son bébé naît, on est censé être au comble du bonheur. Et quand c'est pas le cas, c'est pas entendable, en fait. Notre société veut pas encore l'entendre. Pour moi, je dirais, il faut pas hésiter à en parler. Mais toujours dans une question de bienveillance. Trouver une personne qui soit dans la bienveillance et pas dans le jugement direct.
Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à recommander ce podcast autour de vous et à le noter sur les plateformes dédiées. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ma vie avec les autres.